Bienvenue, bonjour. Je suis très content de vous voir et surtout de vous présenter rapidement, si tant est que je sois capable de le faire de manière à peu près intelligente, ce qui va être difficile. Jean-Didier Urbain, qui est donc mon voisin pour l'instant à ma gauche, qui est donc à votre droite. Jusque-là, tout va bien. Oui, vu l'heure, on peut commencer sans problème. Je vais vous dire deux, trois mots un peu sur la façon que j'ai eu de... D'abord, le plaisir que j'ai de te voir. Donc, ça, c'est déjà énorme. Et puis, c'est déjà satisfaisant en soi, puisque c'est un compagnonnage qui est assez lointain, finalement. On ne va pas vous faire le coup des 30 ans, parce que ça ne va pas le faire. Ça va rappeler des histoires historiques et politiques qui ne sont pas nécessairement très justes pour nous. Mais revenir sur deux, trois points. En fait, je n'ai pas voulu faire une présentation ex cathedra qui soit très, très... parce qu'il y a mille façons que j'aurais pu avoir d'aborder ton travail et puis d'aborder la relation qu'on a établie sur certains points. J'ai juste choisi quelques chemins buissonniers qui vont faire sourire certains pour certaines choses. Et puis, par un tour d'esprit sans doute, eu égard à nos parcours personnels qui se croisent, qui se recroisent, qui s'éloignent, qui se retrouvent, et là, qui se retrouvent aujourd'hui, je trouve ça extrêmement positif à l'état d'égard, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue humain, et puis d'un point de vue de la recherche, parce qu'on est sur des zones qui sont très, très, très proches. Et puis, je songe à un compagnonnage que nous avons eu avec certains dans cette salle, notamment sur le Centre d'études de l'écriture, quand même, qui a marqué notre parcours. Deux mots, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais en fait, deux mots pour l'ensemble de l'assistance, avec Jean-Didier Urbain, avec Yves, notamment. Virginie aussi est passée, si mes souvenirs sont bons. Enfin, d'autres sont passés au Centre d'études de l'écriture. C'est un lieu qui est un lieu assez singulier, qui a été créé par Anne-Marie Christin, que nous avons co-créé il y a déjà très, 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 très... C'est comme, tu sais, comme dans le dessin animé, c'est fort, fort, fort lointain. Et donc, qui avait un objectif assez étonnant d'un point de vue scientifique, extrêmement porteur, visionnaire à des tas d'égards, et qui, bon, comme toutes les belles choses, est né, s'est déployé, puis est mort, parce que je le considère intellectuellement, ce qui n'est pas très gentil de ma part, mais comme pour l'instant un centre en état de catalepsie profonde, et qui a quand même mis en chantier une problématique extrêmement importante qui était la relation du texte à l'écriture, sa relation au support, sa relation aux pratiques, sa relation aux imaginaires de l'écriture. Et on a vu apparaître la relation à l'image du texte, à l'image de l'écriture, et donc quelque chose d'extrêmement important qui nous a, enfin en tout cas qui moi, m'a énormément marqué, qui a marqué notre chemin. Et c'est pour ça qu'en fait, bon, on avait à l'époque comme intitulé de doctorat « Histoire et sémiologie du texte et de l'image », ce qui en soi est un intitulé extrêmement explicite. On travaillait sur les textes, bien sûr, mais on ne travaillait pas sur les textes uniquement dans leur textualité linguistique, on travaillait sur les textes dans leur réalité concrète, matérielle, pratique, dans le fait que c'était des médias on travaillait sur ces médias comme élément constitutif du texte. Donc il y avait déjà quelque chose qui était en train de naître, qui n'était pas nécessairement courant. Paradoxalement, on était très proche des sciences de l'information et de la communication, mais les littéraires, à l'époque, ne voulaient pas entendre parler des sciences de l'information et de la communication. Erreur qui leur a été fatale, historiquement. On peut le dire de manière assez simple. Et où il y a un retour extrêmement puissant de la part de nos camarades littéraires qui sont en train de se rendre compte que ce que nous faisons est au cœur de leur problématique. Donc là, il y a une dialectique qui est intéressante. Tout ça pour dire que c'était une autre vie. C'était une autre vie, effectivement, mais où on a posé un certain nombre de choses qui sont constitutifs des disciplines sur lesquelles nous sommes et qui ont constitué, je crois, le ferment de ce que nous sommes maintenant. Alors, j'aurais pu aussi parler des cours de sémiologie de la culture que tu m'avais proposé de reprendre derrière toi à Paris 3. Je ne sais plus très bien la date. Je dois avouer que je m'en rappelle plus très bien. Mais ce n'est pas gênant. Par contre, il y en a au moins un dans cette salle qui va s'en souvenir et où nous avons œuvré à la Sorbonne dans les amphis. Tu m'avais proposé d'intervenir derrière toi sur ces cours que tu avais créés de sémiologie de la culture, l'intitulé beau quand même, hein. Et puis, bon, je suis intervenu avec grand plaisir, j'ai suivi avec grand plaisir. Puis au bout d'un moment, moi j'aime bien jouer avec les petits camarades. Donc j'ai dit à Yves, tu viens, on va faire un truc là, parce que tout seul, c'est moins drôle. Et alors, je crois que c'est le premier cours à l'université qui est passé en audit et qui a permis à Isabelle Kessler de s'esclaffer. Mais c'est les bronzés de la communication. Il est vrai que lorsqu'elle est venue faire cette audit, nous avions un peu fait un cours pour expliquer les joies de je ne sais plus quelle pratique culturelle, vêtue d'une parka, de gants de ski, d'un bonnet, de bâton idoine et d'autres accessoires qui allaient avec le contexte général, et qui nous permirent de glisser sur les pentes du savoir sémiologique avec une efficacité redoutable. On a eu un effet absolument étonnant et succès garanti, je vous recommande. Hein. Dans un amphi, arriver avec tout ce qu'il faut pour faire du ski, c'est génial. Et alors, effectivement, on est resté avec cette image des bronzés de la communication qui nous a un petit peu collé à la peau. Mais on a fait un travail qui était un travail qui portait effectivement sur, là, à l'époque, quelque chose que tu avais apporté, qui était la sémiologie de la communication, pardon, la sémiologie de la culture. Qui n'était franchement pas évident, qui n'était pas nécessairement très popularisé, en tout cas d'un point de vue universitaire. Donc il y avait quelque chose de particulièrement intéressant pour nous de ce point de vue-là. Quelques autres, chemins buissonniers, par tour d'esprit sans doute, mais aussi par le regard de la démarche théorique, enfin, démarche théorique qui est la tienne et sur laquelle je voulais que tu interviennes plus particulièrement. Et qui semble, enfin, qui me paraît être extrêmement intéressante pour l'ensemble des personnes qui sont ici, c'est-à-dire en fait à la fois des jeunes chercheurs, à la fois des chercheurs parfaitement confirmés, seniors et autres, comme on dit, j'adore ce terme, vous êtes un chercheur senior, déjà d'emblée, on a 10 étoiles sur la casquette, vous êtes un jeune chercheur, là, il y a une analyse sémiologique qui pourrait être intéressante à faire. En tout cas, chercheurs qui tous ici, soit en herbe, comme on dit aussi, soit qui ont déjà une carrière derrière eux, sont, à mon avis, seront parfaitement intéressés parce que tu es susceptible de pouvoir nous proposer au niveau des questions de méthode et d'approche théorique à l'articulation des disciplines qui ne cessent de nous taquiner, comme elles n'ont cessé de te taquiner toi. Et je reviendrai sur ethnologue, mais pas trop. J'adore ce titre. Je fais un aveu, mais vraiment, voilà. Je trouve ce titre est superbe. C'est un titre éditorialement très porteur, mais en plus qui, d'un point de vue scientifique, dit beaucoup de choses. On y reviendra. Une démarche théorique sur laquelle je voulais que tu reviennes et tu parles toi-même en fait d'une égo-histoire. J'aime bien ce terme. J'aime bien ce terme parce que il me semble que c'est assez bien vu sur l'articulation du parcours que nous avons en tant que chercheurs, en tant que bons hommes, avec deux pattes, une tête, des bras, enfin, quand on a à peu près tout ce qu'il faut, et puis un désir de recherche scientifique, et que l'articulation entre je vois que ça ne laisse pas indifférent certains, et quand on a effectivement une démarche qui consiste en fait, à placer un certain nombre d'axes théoriques en rapport avec son propre parcours, en rapport avec ce que l'on a fait. Je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement important qui a souvent été nié. J'ai toujours pensé qu'il y avait au fond de nos démarches scientifiques des questions d'ordre existentiel. Alors, ça fait sourire. Certains s'enfuient dans ces cas-là. Mais dans les deux cas de figure, je pense qu'il y a une analyse qui mérite d'être menée. Il faut simplement, me semble-t-il, avoir soit la modestie, soit la simplicité de le reconnaître, à défaut de la prendre en compte dans le voyage théorique, cette clairvoyance qui nous rend beaucoup plus lucides, beaucoup plus libres par la force des choses, de comprendre en fait quels sont les enjeux de nos propres travaux par rapport à notre propre parcours. Là, il y a quelque chose que tu tises dans certaines de tes remarques sur ton ouvrage qui me paraissent extrêmement importantes. Plus libre et plus, de ce fait, plus créatif d'un point de vue scientifique, parce que précisément susceptible de pouvoir appréhender ce que certains appellent le cadre instituant de notre pensée, etc. Je renvoie enfin, à d'excellents cours qu'il y a dans cette maison. Hein. Je reviens juste citer ce passage que tu prends de Michaud quand tu le rappelles à toi en disant, comme le passant aux yeux naïfs de Michaud, s'il met le doigt au centre et non ailleurs, à côté ou au loin, ce voyageur est vite menacé d'excommunication scientifique par une certaine croyance. Laquelle ? On croyait, et tu cites Michaud, on croyait qu'un savant travaillait en général sur des faits extérieurs à lui-même, des documents, des matériaux ne l'impliquant pas personnellement. Eh bien non, ce voyageur travaille sur des faits intérieurs. Je pense que là, il y a une réflexion qu'il faut que l'on ait le courage de porter, de poser, de formuler, et puis de déployer derrière. On y reviendra peut-être. Me paraît-il, cette petite révélation, mais qui est une révélation copernicienne pour certains, qu'il nous faudrait aussi avoir parfois la tranquillité de méditer dans nos propres travaux pour qu'elles soient effectivement productives. C'est un choix de posture, bien sûr, hein, que je suis en train de faire, où tu sembles toi-même avoir choisi la défamiliarisation, terme fabuleux, que j'avais retrouvé, moi, de mon côté, dans d'autres œuvres, qui sont des œuvres littéraires, puisque nous, le déploie et le travaille d'un point de vue théorique d'une manière extrêmement efficace, lorsqu'il se fait notamment le chantre de Saint-Glinglin chez les médians, j'y reviendrai éventuellement, mais je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Je vais simplement citer un passage de ce même ouvrage sur lequel je reviendrai tout à l'heure aussi, si je retrouve la bonne page, là voilà, où tu dis que la défamiliarisation est cette tentative d'éloignement à domicile, d'expérience, d'exotisme chez soi, de dépaysement inversé tel que l'indigène s'improvise étranger chez lui. Je vous laisse le temps de méditer cette réflexion. Alors, je vous la balance un peu rapidement comme ça. Elle mérite, je crois, effectivement, d'être reprise et d'être retravaillée. Et une égo-histoire, tu dis, dans ta présentation, donc non pour dresser un panégyrique, tout à fait le genre de la maison, en tout cas pas le mien, ou la satisfaction d'une fin carrière, ce qui serait quand même un peu dommage pour toi et un peu prématuré, ce que je ne saurais souhaiter à ton égard. Il nous reste en fait encore quelques beaux jours à échanger, mais bien pour faire un point sur quelques pratiques, sur quelques choix fondamentaux de recherche qui me paraissent être la clé de proximité intellectuelle et de proximité de travail, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, des choix d'ordre politique en somme, en fait, pour aller au fond des questions, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais avant tout, juste un petit rappel, personne n'est parfait. Tu es professeur des universités en linguistique générale et sémiologie à Paris 5. Tu aurais été bien en sciences de la Foucault. T'aurais été superbement bien à ta place en sciences de l'infocom. Alors, en même temps, ce regard un peu décalé, à te lire, on constate en fait d'extraordinaire proximité méthodologique dans ce que nous faisons ou ce que tu fais. Donc, il y a quelque chose là, que tu sois en sciences de l'infocom, en sciences du langage, finalement, ce que nous sommes en train de tisser, dont nous sommes en train de parler du point de vue au niveau du laboratoire en parlant de tour de main, mais je crois qu'on est très, très proche. Chemin de traverse en sciences du langage, sociologie parfois dans tes enquêtes, anthropologue sans doute, évidemment, ethnologue, oui, mais tu l'as dit toi-même, pas trop. Donc, avec ce regard et ce recul qui t'ancre de toute façon systématiquement en sémiologie, qui est le cœur même de ce sur quoi tu travailles et à partir de quoi tu travailles. Voilà un point de certitude, en tout cas dans l'ensemble du chemin et du parcours que tu proposes, sur lequel on va se retrouver par la force des choses. La parenté du tour de main consiste à nouer ce qu'à une époque j'avais appelé l'éclectisme méthodologique et que je continue à trouver comme une formule qui peut être heuristique pour nous, éclectisme méthodologique à bon escient, c'est-à-dire en contexte, en situation et en fonction de l'objectif que l'on s'est fixé dans la recherche que l'on a tenté d'éclairer. Mais tu as aussi en même temps recours à l'intelligence de la philo, qui est une de tes formations initiales et qui nourrit ton regard, ou encore de la littérature, et je vais faire un point là-dessus, comment m'en priver et comment me gêner de ce point de vue-là, en ce qu'elle est l'un des appareils théoriques les plus subtils que tu convoques dans les approches qui ont prétention à fréquenter la chose humaine, et je pense que tu le montres assez clairement, avec une espèce de tranquillité dans le choix des citations, passages qui viennent appuyer ton propos scientifique. Et là, je pense qu'on a proposé à un moment dans le cadre de ce labo, et je pense que j'y reviendrai à un moment ou un autre, de retravailler sur la dimension heuristique de la démarche littéraire du point de vue scientifique. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup à dire, et la dimension théorique des écritures de fiction. Tu réhabilites, si tant est qu'il ait été nécessaire de le faire, la puissance théorique de la fiction littéraire et notamment poétique. Et si à travers ta pratique, tu montres que l'usage de la littérature peut être un excellent moyen d'accès à l'analyse, par un juste retour des choses, tu soulignes, après Barthes, qui est un de nos maîtres communs, je dirais, ou Mallarmé, Bakhtin aussi, bien sûr, au passage, la place constitutive de l'écriture, c'est rigolo, on en parlait tout à l'heure, mais je crois que c'est important d'y revenir, j'y avais pensé, en fait, dans cette présentation, la place constitutive du travail de l'écriture dans l'activité de la recherche. Ce passage, notamment, tiré toujours du même ouvrage, j'ai repris celui-là parce qu'en fait, il a un avantage énorme, c'est que, comme il est réflexif sur la méthode, je retrouve toutes mes billes, donc je trouve ça plutôt satisfaisant. Où tu dis, page 159 en l'occurrence, petit passage où vont être cités successivement un certain nombre d'auteurs, j'y reviendrai après. Il est peut-être, on commence par Barthes, bien sûr, il est peut-être temps d'ébranler une certaine fiction. La fiction qui veut que la recherche s'expose, mais ne s'écrit pas. Le chercheur serait essentiellement un prospecteur de matériaux, et c'est à ce niveau que se poseraient ses problèmes, parvenus au moment de communiquer les résultats, écrit Barthes, entre guillemets, tout serait résolu. Mettre en forme ne serait qu'une vague opération finale, rapidement menée grâce à quelques techniques d'expression, apprises au lycée, et dont la seule contrainte serait de se soumettre au code du genre, clarté, suppression des images, respect des lois de raisonnement, etc. Ont-ils oublié, ajoutes-tu derrière, ont-ils oublié, en citant Mallarmé très bientôt, ont-ils oublié ces rédacteurs en chef, citation de Mallarmé, de la recherche objective, ce secret de fabrication que toute méthode est une fiction, dont le langage est l'instrument. J'aimerais qu'on s'arrête de minutes là-dessus, et j'aimerais qu'effectivement on ait un échange à ce propos, parce que ça me paraît être constitutif à la fois de ta démarche, tu le montres de manière très très claire, mais que ça me paraît être constitutif de notre démarche, et alors là je m'adresse effectivement à la fois à mes collègues, mais bien entendu aux doctorants, et bien entendu aux étudiants de master recherche, comment oublier que ceux qui rédigent leur mémoire, leurs thèses, leurs articles, leur ouvrage, ont avant tout un travail qui s'élabore, se réalise à travers l'écriture. J'aimerais qu'on en prenne une pleine conscience, ce qui n'est pas chose aisée, puisque à la fois et dans l'organisation et dans la perception idéologique que nous avons de la recherche, cet espace-là est d'ordinaire chinté. J'aimerais que l'on prenne la juste et la simple valeur de cet acte qui est constitutif de ce que nous faisons, qui est l'acte d'écriture à proprement parler. C'est un acte fondamental, il prend du temps, il est transformant, il est métamorphosant. C'est à travers lui, et je vous renvoie aux écrits de Bakhtin, admirables, comme je l'ai dit dessus, qui est le temps, le lieu où, effectivement, la recherche s'élabore. Ou cet autre que tu convoques, où tu convoques, pardon, Barthes à nouveau, comment ça, pourquoi gêner, t'as raison, c'est difficile finalement de passer après des gens comme ça, parce qu'ils ont traité un tel champ, que, mais en même temps c'est très satisfaisant. Barthes, Bourdieu, Paul Venn, cet admirable théoricien de la romantique qui a écrit un certain nombre de choses auxquelles je vous renverrai également moi volontiers. Mm-hmm. J'ai retrouvé Venn dans, mm-hmm. avec plaisir, bon, pour être honnête. Car l'histoire est aussi un récit, est un récit qui a des prétentions théoriques. Et je voudrais reprendre cette citation, la prendre un tout petit peu plus haut pour que le contexte ne soit pas complètement défiguré. Tu commences par écrire « La sémiologie ne condamne pas l'image. Elle s'en méfie et l'étudie, puis elle s'en sert et la manipule. Elle en joue. » Et là, tu cites Barthes en premier temps. « J'appellerai volontiers, écrit Barthes, sémiologie, le cours des opérations le long duquel il est possible, voire escompté, de jouer du signe comme d'un voile peint ou encore d'une fiction. » Et tu reprends derrière. « Or, comme programme de perception, et allusion à Bourdieu, comme programme de perception, au regard jeté sur le monde, la théorie est une fiction qui n'est séparée du roman que par la vérification. » Et tu cites Venn à ce moment-là. L'histoire est un roman vrai, dit Paul Venn aussi, etc. Je vous renvoie à ce passage qui est également, de ce point de vue-là, c'est page 165, extrêmement intéressant. Et il est vrai que, et je ne m'étendrai pas beaucoup plus pour te laisser la parole, il est vrai qu'un voyage dans l'ensemble de ton œuvre, parce qu'on peut parler de ça, de tout, hein, quand même, elle commence à devenir particulièrement conséquente. Bah oui, bon, pourquoi s'en cacher? Dans tes bouquins en général, à travers ton écriture, le temps que tu prends pour dégonfler la controverse, on a plaisir à l'avoir montée, à l'avoir déconstruite, à l'avoir réarticulée, d'entrer dans la citation et de la travailler au service de ton propos et au corps du texte, ou simplement dans le récit de tes déambulations. Alors ça, c'est le dernier petit plaisir qui est à la fin de l'ouvrage, les déambulations cataphiles, par exemple. Quelle terre féconde de rêveries imaginaires que celle des catacombes ! Pour un Parisien ou un non-Parisien, la question est là. Au Koussaï, à Paris, un vrai bonheur, page 214, je vous renvoie là. Retour à tes amours d'origine, la mort, bien sûr, je vais y revenir. Sujet de ta thèse sur l'étude sémiologique des cimetières, avec le carrefour des morts, qui est situé en dessous du cimetière de Montparnasse. Pour quelqu'un qui a travaillé sur Connaissez-vous Paris, moi je me sens parfaitement à l'aise. On était à la surface, toi tu étais en profondeur. Bon, voilà. À moins que ce ne soit au profit de ces jeux graphiques que tu affectionnais tout particulièrement à une époque, si mes souvenirs sont bons, dans certains articles notamment, le carrefour des morts devenant le carrefour des mots, ce que permet ainsi la chute d'un air, n'est-ce pas tout simplement la petite chanson subtile qui a prétention à comprendre ces étranges nomades que nous sommes et qui n'ont de cesse de s'inquiéter de leur chemin alors même qu'il est déjà balisé. Dans tes ouvrages au moins, d'un cimetière à la plage, alors je vous les rappelle quand même, parce que je ne vous les ai même pas signalés tout à l'heure, petite liste qui a valeur pérequienne ou rablaisienne, parce que Rabelais ne s'en prive pas non plus, on commence en 98, ou plus exactement 78, pardon, la Société de conservation, qui était tirée de ta thèse. J'adore, parce que la société, j'ai toujours adoré ce titre, la Société de conservation, étude sémiologique des cimetières. Je trouve qu'il y a un petit côté ironique à la fois, quand même, qui est pas désagréable. L'archipel des morts, ensuite, l'idiot du voyage, sur la plage, secret de voyage, les vacances, la France des temps libres et des vacances, paradis vert, ethnologue, mais pas trop, dont j'ai tiré les principales citations que je viens d'évoquer à l'instant. Le voyage était presque parfait, on est en 2008, là. L'envie du monde, etc. Donc, en fait, qui commence effectivement à faire une œuvre assez conséquente. Et quand on écoute cette liste, il y a quelque chose d'assez agréable, finalement. C'est un renversement assez joyeux, au fond, que tu nous proposes, puisque du cimetière au voyage presque parfait, on arrive à la plage. Je trouve ça assez satisfaisant.